Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Cette semaine, Escale s'intéresse au documentaire « Pourquoi la pauvreté ?», dont le lancement vient d'avoir lieu à l'ONU en marge du débat annuel de haut niveau de l'Assemblée Générale. Bonne écoute.
Why poverty?
Pourquoi 1 milliard de personnes vivent-elles dans la pauvreté au XXIe siècle? Qu'est-ce que ça veut dire que d'être pauvre? Les femmes arrivent-elles à mieux s'en sortir que les hommes? Autant de questions que pose la série de documentaires « Pourquoi la pauvreté ?», lancée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. Produite en collaboration avec la BBC, la télévision danoise et plus d'une cinquantaine d'autres télévisions nationales, « Pourquoi la pauvreté ?», qui sera mise en onde en novembre prochain, vise à attirer le regard de plus de 500 millions de téléspectateurs et internautes sur la pauvreté à travers le monde. L'objectif est d'inciter à la réflexion et à un dialogue planétaire, sans pour autant prôner de solutions particulières. Une fois les débats terminés, moment de rencontre. L'occasion de pouvoir discuter avec différentes personnes impliquées dans l'élaboration du projet, à l'instar de l'un des producteurs exécutifs de la BBC, Nick Fraser, qui présente ici le projet.
Il y a 8 films d'une heure chacun, et il y a au moins 30 films de 5 minutes, 2 minutes. Et ce que nous essayons de faire, c'est de jeter un regard sur l'état du débat sur la pauvreté dans le monde contemporain. Donc, on n'essaye pas d'avoir des solutions, mais de poser des questions. Et tous les films sont ou bien des reportages ou des documentaires où on a suivi les personnages pendant assez longtemps.
Alors, pourquoi avoir choisi de raconter ces histoires? Est-ce que vous pensez que le cinéma peut être plus impactant qu'une autre forme?
Oui, je crois qu'il faut savoir faire regarder les gens la réalité ou faire écouter les gens, les voix des gens qu'on appelle pauvres, qui sont dans un état de pauvreté, mais qui restent aussi intéressants que les gens très riches ou les gens d'une moyenne richesse, etc. Et je trouve qu'on est à un moment historique assez important où le regard sur la pauvreté change rapidement. Les gens qui connaissent, qui ont passé beaucoup de temps à regarder ce qui se passe dans les communautés pauvres, changent leur perspective sur ce qu'on doit faire. Il y a une Française d'ailleurs, Esther Duflo, très très intelligente, qu'on a suivie dans ses films parce qu'elle n'a aucun dogme. Elle croit qu'il ne faut pas ordonner les gens, il faut savoir écouter les gens et puis après les avoir écoutés, il faut deviner ce qu'on devrait faire. Et les solutions varient selon l'état des pauvres, où ils habitent, etc., etc. Donc il y a maintenant une nouvelle école de sociologues, d'économistes, etc., qui jette un regard complètement différent sur la pauvreté. Donc on a eu tendance à suivre cette école dans nos émissions.
Alors, pour les gens qui vont voir ces films et qui vont témoigner de ces situations, c'est des situations assez impactantes parce qu'on a pu voir ce soir, est-ce qu'il va y avoir un moyen qu'ils puissent s'impliquer facilement? Des liens, des associations?
Absolument. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui regardent ces films suivent eux-mêmes leur route et qu'on leur donne les contacts des associations, mais on n'a pas envie d'indiquer la bonne voie. Ce n'est pas notre job. Nous sommes des chaînes, nous sommes des gens qui pratiquent une espèce d'éducation mondiale, populaire, mais ce n'est pas notre rôle de dire ce qu'on doit faire. Les gens devraient regarder ces films et après choisir ce qu'ils vont faire.
L'après-projection a aussi permis de rencontrer deux documentaristes qui ont travaillé sur le court-métrage « Les couleurs de la poussière » qui dresse l'extraordinaire portrait de Juvens, un jeune garçon haïtien pauvre. Chacun a partagé son expérience et souhaité un grand succès au documentaire. Pour Jonathan Stack, le réalisateur américain, c'était l'occasion de donner de sa personne.
C'est un film de 5 minutes d'un garçon qui habite Haïti, très pauvre, mais très riche. Et c'est la richesse de sa mente, de sa spirit, qui m'a fait faire le film.
Donc c'est sa mentalité et sa vie intérieure.
Incroyable. Il a demandé, qu'est-ce que c'est la pauvreté? Il savait que matériellement, il est pauvre, mais spirituellement, il est riche, il a dit. Il a beaucoup d'idées, il a beaucoup de joie de vivre.
Est-ce que vous avez appris justement quelque chose avec ce jeune garçon, Juvens?
Oui, j'ai appris qu'on doit avoir beaucoup de précautions, de donner des titres à personne, d'être riche, être pauvre.
Les étiquettes.
Oui, que tu peux trouver dans une communauté des personnes très pauvres, des personnes qui sont très riches. Et pour moi, ça c'est comme un cinéaste, c'est toujours d'apprendre les personnes avec qui je travaille. Et chaque fois que je trouve dans les personnes beaucoup d'espoir, et c'est toujours la même chose, de ne oublier pas que le monde est plein de personnes prêtes à participer à une chose positive.
Alors, vous êtes un cinéaste américain, vous travaillez avec une université à Haïti.
Oui. Il y a beaucoup de jeunes, ils participent à l'école de cinéma qui s'appelle Ciné Institute. Je ne travaille pas avec l'école, je travaille avec les élèves qui sont gradués. C'est ça, c'est l'idée, de travailler avec les élèves, de faire des films professionnels. Mais ils ont besoin toujours de plus et je les guide.
C'est quand même des histoires sur la pauvreté, sur la survie. Qu'est-ce que vous cherchez à communiquer à travers les films?
J'ai cherché, dans cette histoire, nous avons cherché une personne qui n'est pas ce que tu penses que tu vas trouver. C'est toujours trouver des surprises. Et cet enfant, un jour, deux jours avant de décider qu'est-ce qu'on va faire avec le film, nous avons vu un film que nous avons fait il y a 2 années. Avec l'école, nous avons fait un film dans un campement des personnes qui ont perdu sa maison. Et j'ai souvenu d'un jeune, il avait quelque chose de spécial, qui a énergie originale. Quelque chose,
il y a un déclic.
Oui, c'était une chose qui dit, oh, j'aime ce type. J'aimais ce type dans le film. Et j'ai dit, demain, on va chercher ce type. Qu'est-ce qu'il a passé avec le type 2 années après de Sesme? Il était artiste. Il voulait faire un peintre de l'expérience d'être pauvre. Il fait l'art, il fait des masques, il fait des peintres, il fait des choses, toutes choses avec ses mains, très jolies. Il vend l'art dans la rue. Il a dit, je sais que je suis pauvre, mais la possibilité d'aider à ma famille avec l'argent de vendre sa art, il a dit qu'elle se sent comme un grand homme chaque fois qu'il porte petit argent à sa maison. Pour moi, personnellement, ça me fait travailler plus dur parce que je pense que tous avons la possibilité d'aider autres personnes. On peut faire film, on peut de radio, on peut simplement être sympathique. Il y a beaucoup de façons de faire que si nous travaillons ensemble, on peut changer l'histoire. Le monde n'a pas besoin d'être comme est. Le monde peut être autre chose. Chaque personne a la possibilité de prendre variance de réalité.
Pour Nicolas Cuellar, le monteur du court-métrage, c'était aussi l'occasion de tirer des leçons de la vie.
Je crois que le plus intéressant qu'on a vu chez lui, c'est qu'il comprend parfaitement son état de pauvreté. Et la première chose qu'il dit, c'est qu'il est pauvre. Mais à partir de sa pauvreté, il trouve une richesse que vraiment on ne trouve pas. Nous, on croit que quand on est pauvre. Et lui, il trouve une richesse incroyable.
C'est quoi cette richesse?
Une richesse mentale. Il dit que sa richesse, c'est la capacité de trouver dans un endroit où personne ne trouve des éléments positifs. Il trouve quelque chose, pas seulement pour lui-même, mais où il peut démontrer sa richesse au monde. Sans avoir réellement une richesse matérielle, il peut montrer sa richesse personnelle.
Et c'est une leçon que vous retenez dans votre propre vie, peut-être?
Complètement. Il nous a changé. Parlant avec lui, c'était incroyable.
Et c'est qu'à travers cette attitude qu'il a trouvé justement une issue un peu à sa pauvreté, cette volonté de vouloir devenir artiste?
Oui, on l'a trouvé 2 ans avant, en 2010. On l'a trouvé la première fois et c'était un enfant de 8 ans qui parlait seulement de ses rêves de devenir artiste. Et on l'a suivi pendant ces 2 ans quand il a vraiment réussi à travailler et à se maintenir, à maintenir sa famille et sa mère avec ce travail. Et c'est incroyable la force qu'il a, sa mentalité nous a vraiment choqués.
Alors vous dites que vous l'avez suivi pendant 2 ans et que finalement au bout de ces 2 ans, de toute façon, il finit par participer à un atelier d'artiste. Est-ce que en étant cinéaste, vous avez eu quelque part une main mise dans son destin? Vous lui avez donné un coup de pouce? Est-ce que votre influence a joué sur le fait qu'il ait trouvé une sortie?
Moi, je crois que spécialement en laissant Juvens parler à partir de nos films, on a définitivement aidé à lui donner une voix.
Mais le fait d'être suivi et filmé n'a pas influencé sur sa capacité de se trouver un futur?
Ça, je dois donner tout le crédit à lui-même. Ses œuvres sont si fortes que je crois que nous sommes vraiment des spectateurs.
Et est-ce que vous pensez justement que ce genre de cinéma peut vraiment donner une impulsion à la lutte contre la pauvreté et comment?
Je crois que la force la plus importante que le cinéma peut avoir sur ce type de thème, c'est de pouvoir donner une voix universelle, aux voix locales. Parce que le cinéma, ce qu'il fait, c'est que spécialement les documentaires qu'on est en train de faire, c'est trouver une voix locale qui nous donne un thème vraiment intime. Et cette intimité peut être montrée au monde. parce que quelqu'un qui ne vit pas cette vie de pauvreté, quand il parle de cette pauvreté, c'est un peu plus objectif. Et ça, c'est bien connu, ça fait beaucoup de bien. Mais quand on arrive à trouver une voix intime et la transformer dans une voix globale, ça, c'est ce que le cinéma fait.
C'est impactant de pouvoir témoigner du quotidien comme ça?
Oui. Ça change la vie. Chaque jour, là-bas, c'est incroyable. Chaque fois qu'on fait un documentaire comme ça, on sent le changement dans nous-mêmes.
Et vous allez continuer sur cette même voie ou vous avez d'autres aspirations?
Bien sûr. Pour le moment, c'est ce qu'on est en train de faire.
Vous ne pouvez tout prendre à un paysan, tout, mais pas sa terre. Parce que la terre, c'est la seule chose que le paysan possède.
The question is, who owns Africa? Who owns the land?
L'un des objectifs affichés du projet est de susciter des discussions. Un but atteint lorsqu'on écoute les échanges qu'ont repris les idées soumises par les panélistes au cours des débats suivant chaque projection. Ainsi, celle sur le rôle des institutions financières internationales dans la pauvreté en Afrique, présentée après la projection d'un clip de Land Rush. Une vive discussion a eu lieu, à laquelle Danny Glover et le ministre Robert Sitchinga ont pris part. Jocelyn Barnes, chef des opérations de l'Ouverture Films, la compagnie de Danny Glover, revient sur les idées que l'acteur et activiste a tenues lors du débat. Idées reprises dans un de ses films récents, Bamako, une fiction fortement engagée et inspirée de la réalité.
Dans le film Bamako, on avait deux personnages. Les rôles étaient joués par des ministres du Sénégal et du Mali, Aminata Traoré. Et une autre ministre au Sénégal. Elles ont posé la question pendant le film, et si vous êtes obligé, comme ministère, pour satisfaire les dettes, si vous êtes obligé, imposé par la Banque mondiale ou bien le FMI, de vendre votre secteur d'énergie, transport, santé, est-ce que vous êtes vraiment un pays libéré? Et il y a des autres ramifications sociales aussi, bien sûr, surtout pour les femmes. Parce qu'en Afrique, 80% de la nourriture que les gens mangent est produite par les femmes. Et quand vous êtes dans une situation où le pays est en train de rembourser les dettes des banques commerciales, ça veut dire que dans le pays, il y a un système d'agriculture où l'économie est basée sur l'agriculture pour les exports. Mais c'est surtout pour satisfaire les dettes pour les banques commerciales ou bien pour la Banque mondiale ou le FMI. Ils ont demandé et imposé ça. Ça a des ramifications énormes, sociales et culturelles, pour la balance entre les femmes et les hommes. Parce que c'est les hommes qui mènent l'agriculture des expos. Ce sont les femmes qui mènent l'agriculture pour la nourriture des familles. Ça change la balance du pouvoir dans la famille, dans le village, dans la culture.
Est-ce que ça veut dire que le travail de l'homme, puisqu'il est destiné à l'exportation, est considéré comme étant plus important que l'agriculture de subsistance qui est reléguée aux femmes, est vraiment mise en arrière-plan et ne reçoit pas de reconnaissance à sa juste valeur?
Oui, précisément. Et dans une manière structurelle aussi, parce que en fait, les femmes ont moins de pouvoir déjà dans le système économique, parce que les femmes n'ont déjà pas l'accès aux banques, des moyens d'avoir, par exemple, l'accès du crédit. Et ça contribue beaucoup au problème de pauvreté.
Jocelyn Barnes, qu'est-ce qui vous a mené à commencer à faire des films, et surtout un film pour sensibiliser par rapport à la pauvreté?
Pour moi, ce qui est intéressant avec le cinéma, c'est que c'est une forme d'art qui montre la nature fictionne de la réalité même. Parce que les choses se passent tout le temps et la cohérence des choses, c'est ce que nous appelons la réalité. Et le film, quand vous tournez, vous choisissez des scènes et quand vous faites le montage, vous décidez l'histoire que vous voulez présenter. Donc c'est presque la même chose dans une manière. Le film, comme un art, ça révèle le processus de cet aspect de réalité qui est vraiment fiction. Et l'implication, c'est seulement que les choses peuvent changer.
Voilà, et c'est sur ces commentaires que se referme Escale, un magazine consacré cette semaine à la série de documentaires « Pourquoi la pauvreté ?» et au cinéma engagé. En espérant que vous aurez l'occasion de porter votre regard sur la pauvreté, d'en débattre avec votre entourage et de contribuer vous aussi à lutter contre ce fléau. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration de Jérôme Longuet et de Florence Westergaard. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.